Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, je vous propose que nous fassions une lecture ce matin. On en fera plusieurs, mais un texte de référence d'abord. Et nous allons prendre en considération une pensée en particulier. Pensée qui est importante pour nos vies. Faire des choix. Alors, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a des choses qui sont sans conséquences. Et puis il y a des choses qui sont très importantes, voire essentielles, pour nos existences. Alors je vous propose que nous lisions un premier texte qui va déjà nous mettre en condition dans notre réflexion, dans Jean, Évangile de Jean, s'il vous plaît, au chapitre 15. Et vous connaissez ce passage, pour l'avoir lu et relu, au verset 16. Alors, Jean, chapitre 15, verset 16, Jésus dit, affirme, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Voilà, que Dieu nous bénisse à travers cette parole même que Jésus hier a laissée à ses disciples et qui a la même valeur pour chacun d'entre nous aujourd'hui. De dire d'abord qu'à l'ascension, Jésus disparaît du milieu des hommes et Pierre, parce que je vais parler de lui ce matin, malgré son pitoyable reniement, mais son retour repentant, parce qu'il y a les deux, va prendre une place importante, voire une place de premier plan, et cela c'est le rapport que nous fait le livre des Actes des Apôtres, et je dirais même que Pierre va devenir le protagoniste des 10 premiers chapitres du livre des Actes, de l'histoire de l'Église, de tout simplement la naissance de l'Église chrétienne. Dans cette Église naissante, il faut faire face à une urgence qui est ressentie comme une nécessité, c'est-à-dire tout simplement le remplacement de Judas, hélas, qui porte désormais un qualificatif, le traître. Et nous allons voir comment les choses se passent. Et pour cela, nous allons faire une deuxième lecture. Ce n'était qu'une introduction dans ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant. Mais maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et tournons les pages de notre Bible et nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, à partir du verset 15 jusqu'à la fin de ce chapitre. J'ai sous les yeux, et je lis. En ces jours-là, Pierre se leva du milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui était le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère, cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes, que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils aient part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. » Voilà ce qu'il nous est rapporté de tout ce contexte et ce que nous allons maintenant méditer. Nécessité, nous avons dit il y a un instant, nécessité pressentie, parce que nous savons une chose qui est clairement définie, nécessité selon le choix initial du maître. Ils ne sont plus que 11, désormais il en manque un. Et qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? 12, c'est ce que Jésus a déterminé, 12 hommes pour être ses compagnons, pour être ses témoins, pour apprendre de lui, 12 comme les 12 tribus d'Israël. Et cette similitude n'a pas échappé vraisemblablement à Pierre dans sa proposition d'un remplacement. Selon une autre parole du maître, dans Luc chapitre 22, quand nous avons ce texte qui nous rappelle que Jésus dira à ses disciples, il dira, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Et il ajoute ceci, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Saint Pierre le savait, il l'avait entendu, il l'avait bien compris lorsque Jésus lui a dit cela, ou même encore, et ça c'est la Bible qui le confirme, et ça c'est aussi notre espérance, lorsque nous avons dans le livre de l'Apocalypse, écrit naturellement par un autre, il s'appelle Jean, et au chapitre 21, où il est dit ceci, en parlant de la nouvelle Jérusalem, elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël, à l'Orient, etc. Et puis je continue par le verset 14. La muraille de la vie avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc, nous partons sur une donnée qui était exprimé par Dieu, exprimé par Jésus pour ses disciples, et qui finalement marque bien et marquera ce que sera finalement cette nouvelle Jérusalem. 12. Alors voici le remplacement de Judas. Et je dirais, et j'ajouterai, si vous me le permettez, l'énigmatique choix de Matthias. Vous avez entendu parler de Matthias ? Alors on va en parler, on en parle très peu, mais on va en parler. Pierre, comme les autres disciples, est juif, et il est un homme forcément entraîné à sonder les Écritures. Aussi voit-il, je dirais simplement, naturellement, dans cette parole prophétique, la défection de Judas, hélas, qui s'est accomplie. Et il fera la citation d'un psaume, « Qu'un autre prenne sa charge », ou si vous aimez mieux, « Qu'un autre prenne sa place. » Alors le sachant, étant pétri de cette connaissance de la pensée de Dieu, alors le sachant, Pierre va prendre autorité, si je peux m'exprimer ainsi, et il fait procéder sans délai à la nomination d'un 12e apôtre. Il se dit, eh bien, on ne peut pas aller plus loin, il en manque un, on sait pourquoi, on sait comment faire, le croit-il. Et il va rassembler ces gens qui sont autour de lui. Le texte nous dit qu'ils sont dans un lieu particulier. Ils sont 120, qui est un multiple de 12, si vous voulez. Mais enfin, je ne veux pas trop rentrer dans ces détails. Alors, il leur fait une proposition. Il y a deux candidats en lice. Il y a Joseph, Justus, et il y a également Matthias. Alors à ce moment-là, comme il convient de le faire dans une assemblée où des enfants de Dieu sont rassemblés, eh bien nous voyons que l'assemblée prie, et puis, chose surprenante, elle tire au sort. On en dira quelques mots tout à l'heure. Et le sort tombe sur un illustre inconnu qui s'appelle Matthias. Alors il est bien dit qu'on avait fait le choix de quelqu'un qui avait été depuis le début jusqu'à la résurrection pour être finalement eh bien, là un témoin et de pouvoir dire avec certitude que eh bien, Jésus est ressuscité et puis on connaît son histoire. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème particulier. Certes, Pierre, on peut le dire de cette manière, a eu une inspiration conforme à l'Écriture. Pas lui reprocher. Il connaît, il sait, et ce qui monte dans son cœur, eh bien, n'est pas en dehors. On pourrait dire, si vous voulez, ce n'est pas transscripturaire. C'est vraiment quelque chose de conforme à la parole de Dieu. Mais je me suis interrogé quand j'ai médité cette parole, mais est-ce vraiment le choix de Dieu ? Et je suppose, mes frères et mes sœurs, que quoi qu'il en soit, dans notre recherche, dans nos choix, dans les orientations que nous sommes à même de prendre pour des choses importantes, pour notre vie spirituelle, pour tout ce qui nous touche de près et qui a certainement eh bien, de la valeur, nous voulons, d'une manière conséquente, eh bien, faire les choses d'après la parole, d'après l'Écriture. Parce que si nous faisions autrement, je pense que nous serions que des gens inconsidérés. Mais je ne veux pas y croire. Alors donc, il a bien une inspiration conforme à l'Écriture, mais nous allons voir maintenant ce qu'il va en ressortir. Nous allons examiner cette affaire. Il y a quelques questions qui émergent de ce qui nous est rapporté dans ce chapitre premier, dans le texte deuxième que nous avons lu. Qui a mandaté Pierre à ce moment-là pour remplacer Judas ? Alors vous allez me dire, ben oui, mais parce qu'il a lu. Il a lu la parole. Il connaît la parole. Admettons. Pierre a-t-il demandé aux autres ce qu'il fallait faire ? C'est aussi quelque part une démarche qu'il convient, dans certains cas, de savoir. Il y a autour de nous des frères et des sœurs qui peuvent être avisés, inspirés. Et il est bien de dire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il ne faut pas multiplier naturellement les questions, parce qu'autant que vous multiplierez les questions, autant vous allez avoir de réponses et vous finissez par vous retrouver dans un véritable labyrinthe. Vous comprenez ce que je veux dire ? Troisième supposition, qui lui a donné autorité ? Qui lui a donné autorité pour que cela se présente ou cela soit présenté comme un ordre. Vous avez vu le verset 21, il est dit « il faut donc que ». C'est un impératif. Cette simple expression nous dit que c'est un ordre. « Il faut donc que ». Et il finit par influencer tout le monde avec cela. Parce que, bien, la parole le dit naturellement. Mais la parole dit des choses et Dieu parle en son temps. C'est une autre affaire. Alors, curieuse décision qui supplante la volonté de Dieu, et par-delà les textes sacrés, les textes de l'Évangile, de la Bible, où est donc le feu vert divin ? Où est donc l'assentiment de Dieu, où là, eh bien, le temps est venu de faire, d'obéir, d'accomplir, de réaliser, de rentrer dans ceci ou dans cela ? Vous savez ce que ça veut dire, un feu vert ? Qu'est-ce que vous faites à un feu vert ? Vous vous arrêtez. Et quand vous voyez le feu rouge, vous passez. Ben, vous n'allez pas aller loin. Eh oui, un feu vert, on s'arrête. Je vous dirais... Non, mais je suis en train de tester. Un feu vert, on passe. Et un feu orange, on se faufile. Hein. Parce qu'il y a des feux oranges aussi, hein, quelquefois, dans la vie spirituelle. Hein. Et on se dit, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Et puis après, on se trouve en face de monsieur avec le képi. Voilà. Enfin bon, c'est vous qui payez, après tout. Vous faites comme vous voulez. Hein. Pierre, encore une fois, s'avance trop vite. Et vous savez que c'est quand même un personnage atypique, Pierre. Hein. On le voit depuis le début jusqu'à la fin. Quand il y a quelque chose à dire, il dit « Moi, je pose la question. » Quelquefois même, il répond avant que Jésus ait répondu. Enfin bon, ça c'est un impétueux. Mais on l'aime, Pierre, quand même. Hein. Parce que des gens comme ça, Dieu peut en faire véritablement des hommes de Dieu. Ah, il n'est pas toujours tenable. Hein. Il n'est pas toujours là comme il faudrait. Mais c'est un peu fouillis aussi chez lui. Mais quand même. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'on peut toujours dire « il n'a pas la foi, Pierre ». Mais si vous vous étiez trouvé dans la barque et que vous aviez passé la bordure du bateau, est-ce que vous l'auriez fait d'abord, hein? Mais lui, il l'a fait. Alors, il mérite quand même notre respect quelque part, hein, même s'il a fait des erreurs. Hein. Alors, il s'avance encore trop vite, hein, parce que une telle audace et une telle responsabilité fait fi de ce que le Seigneur avait pourtant bien défini. Et qu'est-ce que le Seigneur a défini ? Eh bien, tout simplement, le texte que nous avons et que je relis, et que je vais relire encore ce matin, il dira bien à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que vous demandiez que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vous ai choisi, je vous ai appelé, je vous ai établi. » Ça, c'est ce que Jésus avait dit. Et c'est ce que Pierre avait aussi entendu, comme les autres. Choisir, appeler, établir, partir et aller, porter du fruit. Et puis, tout ce que vous demanderez en haut, eh bien, vous avez l'assurance. Si vous rentrez dans ce profil-là, dans ce schéma-là, eh bien, vous aurez l'assurance de l'exaucement. Au point même d'imaginer d'avoir, et ça c'est Pierre qui nous laisse à l'entendre, qui nous laisse que comprendre, d'avoir la sagesse et d'avoir la capacité de se passer du conseil de Dieu. Seigneur, j'ai entendu ta parole, ça me suffit, le reste, on y va, je connais ta parole. Mais c'est peut-être aller vite en besogne, nous allons le voir. Notre histoire ici pose la grave question de nos choix. Alors ils sont à différents niveaux, nos choix. Choix spirituel, choix affectif et sentimentaux, choix professionnel, choix à caractère économique ou autre chose, hein. On peut toujours, je mets cela dans un ensemble. Alors, la question de nos choix, ceux que nous estimons spirituels et qui ne le sont pas en réalité, et qui vont nous donner à l'usage et dans leur réalisation ou non qu'ils ne sont pas spirituels. Ils sont spirituels pour nous, mais dans les faits, ils ne sont pas spirituels. Et les résultats sont attestés, toujours après coup. Et cela nous amène à deux réflexions que je vous livre. D'abord, permettez-moi de... Moi, je me suis arrêté sur ce passage. Et il y a une chose qui m'a interpellé, c'est l'étrange pratique du tirage au sort. Alors, on connaît aujourd'hui le grattage. Et vous connaissez tous les jeux, hein, qui nous font rentrer naturellement, enfin, qui font rentrer les hommes, pour nous. Mais dans tout cet univers du hasard, c'est assez étonnant. Hein. Imaginez-vous, on va avoir une réunion de jeûne et prière tout à l'heure. Alors on va prier, puis j'ai préparé des petites pailles, puis on va tirer. Comment vous allez réagir? Ça va être étonnant, hein? Si on fait un choix de ceci ou de cela, ça va être étonnant, vous me direz, mais c'est dans l'Écriture. Est-ce que ce n'était pas chez ces Juifs, hein, des réminiscences, peut-être de la méthode du partage de Canaan? Vous connaissez l'histoire? Ils ont tiré au sort, alors les uns ici, les autres là, etc., etc. Mais permettez-moi aussi d'ajouter à cela, ça fait partie de la réflexion, mais y recourir, c'est oublier, frères et sœurs, que le Saint-Esprit habite en nous. Il n'est pas avec nous, mais il est en nous, et que désormais, la communication avec Dieu est directe et permanente. Alors à quoi ça servirait la Pentecôte ? Le Saint-Esprit est en nous, il sera avec vous et il sera en vous. Et c'est vrai que je m'interroge parfois sur certaines déviances, même dans le monde évangélique, alors peut-être pas le tirage au sort, mais des choses un petit peu similaires, semblables, apparentées, ou quelquefois on fait des choses qui relèvent davantage de l'Ancien Testament que du Nouveau. Nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas juifs, hein. Nous sommes chrétiens. Et qui, quelque part, c'est comme si, eh bien, on disait, mais Seigneur, tu ne parles pas assez vite, tu ne parles pas assez fort, tu ne dis pas ce que nous aimerions ou que tu entendre nous-mêmes. Alors on vient avec toutes sortes de choses, mais moi j'affirme ce matin, quelque part, pour nous aujourd'hui, on comprend que Pierre a son temps, dans son époque, encore tout imprégné, certaines cultures d'hier, hein. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous et il parle. Et il parle à celui qui veut l'entendre. Les indications du Saint-Esprit, les indications de la vie de l'Esprit en nous. Mais nous restons toujours libres de l'écouter, de ne pas l'écouter. Hein. Ça, c'est chacun voit. Ou alors, de cette façon païenne, des soldats romains qui tirent au sort la tunique de Jésus. C'est bien comme ça que ça s'est passé ? Pour se partager la tunique. Alors là, on peut dire que ça extrapole parce que, bon, on sait qui étaient ces gens et voilà. Alors, une première leçon peut-être à en tirer, frères et sœurs, méfions-nous des amalgames, de toutes ces choses qu'on rajoute à l'Évangile, de toutes ces choses qui nous semblent finalement bonnes, mais qui n'ont rien à voir, qui vicient un petit peu, eh bien, la pureté de la pensée de Dieu, qui nous amène à des interprétations fallacieuses. Et on se dit, mais c'est bien ça, je crois que c'est ça. Enfin, si mon « je crois » se fonde sur la volonté de Dieu, là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un « je crois » très subjectif, très personnel, alors peut-être que là, nous risquons d'avoir des déconvenus. Il y en aura des inconvenus. Attention aux amalgames. Le chrétien n'a-t-il pas mieux à faire ? Ou ferait-il mieux que de prier avec foi et d'attendre dans la foi ? Mais c'est peut-être là le problème de Pierre. C'est un homme de foi, il nous est dit à un moment donné, un peu plus loin dans le livre des Actes des Apôtres, en citant aussi Barnabas, et citant ces hommes en disant « c'était des hommes qui étaient remplis de foi et d'Esprit Saint ». Bon. D'attendre dans la foi. L'initiative de Pierre donne l'impression d'être forcément précipité, parce que c'est vite oublié ce qu'il avait entendu expressément, dans le livre des Actes des Apôtres, et que je voudrais quand même relire, parce que, me semble-t-il, c'est quand même important, quand on a entendu une chose, eh bien de le vivre. Et dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est dit ceci au chapitre 1er, au verset 4, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda Jésus. » Et là, il était ressuscité, mais bon, il était bien avec eux. « Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » D'attendre. D'attendre. Ou encore, vraisemblablement dans Luc, où nous avons cette autre parole au chapitre 24, et là, tout aussi significative, verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous, Pierre l'a entendu ça aussi, Jésus est au milieu d'eux, ressuscité certes, mais au milieu d'eux, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, jusqu'à ce que, mes frères et sœurs, on peut être là, eh bien, saisir une promesse dans la Bible. Et on peut dire, c'est pour moi, et le Seigneur vous dira, oui, c'est pour toi. Jusqu'à ce que je t'en donne l'appropriation, où tu vas tendre la main de la foi et tu vas le saisir. Un fruit, quand il est vert, il fait grincer des dents. Quand il est pourri, il n'est plus comestible. Il faut le prendre au bon moment. En reparlant du tirage au sort, j'aurai cette expression, si vous me le permettez, dérisoire expédient. Qui sème la graine, qui répand la semence, mais une semence qui ne pousse pas. Alors je suppose que quand vous achetez des semences, vous espérez qu'elles poussent. Il faut dire qu'on a eu un été exceptionnel. Mais toujours est-il que nous avons à veiller à ce que notre semence pousse, parce que c'est le but. Une graine qui ne poussera jamais, dont le verset 26, et j'insiste parce que c'est le verset clé de notre méditation, nous fournit la preuve évidente. Qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 26 ? Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Très bien, on est d'accord avec ça. Ils ont fait ce qu'ils croyaient devoir faire, mais c'est bien. Mais permettez-moi de dire qu'il y a mieux. Et moi j'ai l'habitude de demander, et je le dis de temps en temps, « Seigneur, donne-moi ce qui est bien, mais tu sais, je préfère que tu me donnes ce qui est le meilleur. » Il y a le bien, et il y a le juste bien avec Dieu. C'est une autre affaire. Alors ils ont tiré au sort. Et puis, ben, fallait bien que ça tombe sur l'un ou l'autre, hein, de toute façon. Hein. Et c'est Matthias qui a été élu, et il a été associé aux 11. Alors je ne sais pas s'ils lui ont fait la fête en disant « Bienvenue, excusez-moi, hein, au club. Bienvenue parmi nous. » Parce que c'est vrai que tu as vu beaucoup de choses, tu les as vues autant que nous, tu as entendu autant que nous, alors maintenant nous sommes contents que ce soit toi. Et peut-être avec une arrière-pensée en pensant à Judas, eh ben, c'est bien que finalement il ait débarrassé la compagnie. Hein. Avec ce qu'il a fait. Alors on était contents certainement d'accueillir Matthias. Mais prêtons bien attention. C'est le premier et c'est le dernier verset où il est question de Matthias. Vous connaissez, hein ? Vous avez vu ? Vous l'avez retrouvé dans la suite ? Jamais. Vous ne l'avez jamais retrouvé dans la suite. Matthias. C'était certainement un brave garçon. Matthias, c'est un dérivé de Matthieu, ou assimilé à Matthieu, c'est don de l'Éternel, don de Dieu. Eh, on pourrait se dire, quand on fait l'analyse du mot, en disant, mais Seigneur, merci hein, de ce que Judas soit parti, et puis que maintenant tu nous as envoyé ton don. Matthias. Mais cette histoire nous laisse penser que ce qui revient à constater, c'est qu'il n'a joué aucun rôle dans l'Église primitive. Puis même après, forcément. Aucun rôle. On pourrait peut-être parler de choix sans lendemain, de choix humain. Et, permettez-moi de l'ajouter, il manque toujours le 12e. Hein. Il y en a un 12e. Mais il manque quand même. Il n'est pas là. Alors la seconde réflexion, parce que je vous ai dit qu'il y en avait deux. La seconde réflexion concerne Pierre et ses illusions. Et là, je vous dirais franchement que Pierre, il nous ressemble vraiment, ou plutôt, permettez-moi d'ajouter dans l'autre sens, que nous ressemblons vraiment à Pierre. Et vous allez voir pourquoi. La leçon qui suit est essentielle pour qui veut se laisser diriger par le Seigneur. Et je pense que si je posais la question ce matin, en disant « Qui veut être dirigé par le Seigneur ?», spontanément, tout le monde va lever la main. Je serais quand même étonné de dire « Moi, je vais faire... » Parce que vous ne seriez pas là, forcément. Donc, on est bien dans cette configuration de pensée. Dirigé par le Seigneur, on sait que Pierre n'était pas à la croix. Enfin, il était dans les parages, mais il fait comme l'évangéliste Luc nous dit, il regardait de loin. Pour avoir été si près, il aurait peut-être pu quand même être là, mais bon, on connaît les circonstances. Il était en fuite, notre Pierre. Mais l'heure se rapproche où il lui faut faire une expérience, c'est-à-dire mourir, non pas de mort naturelle, non pas par le suicide comme son ex-compagnon Judas, mais mourir à lui-même. Et là, nous touchons au cœur même de l'Évangile. On en parle souvent. Le sacrifice est essentiel. Si quelqu'un veut être mon disciple, et j'ajouterai, je paraphrase, hein, jusqu'au bout, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est essentiel. J'ai bien dit, hein, celui qui veut se laisser diriger, celui qui veut servir le Seigneur. Si on ne veut pas servir le Seigneur, bon, on peut passer sur l'histoire. Hein. Mais quand on est conséquent et quand on sait ce que veut dire être un disciple, alors c'est autre chose à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Mourir à lui-même. Mais vous allez me dire, mais Pierre, il est mort à lui-même. Il est mort 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Il a fait tellement de choses que... Il n'a pas toujours réussi, il y a eu peut-être des réussites, mais il y a eu beaucoup de choses. Alors j'espère qu'il a compris quelque chose, il est enfin mort à lui-même. On peut se dire que lorsqu'il a pleuré amèrement en croisant le regard de Jésus dans la cour du souverain sacrificateur, il est mort, oui bien sûr qu'il est mort à ce moment-là, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous croyez qu'on meurt du premier coup? Petite mort, mort à petit feu, mais mourir vraiment, mourir réellement. Et l'Écriture sainte nous enseigne que seule cette mort-là nous garantira, nous garantit et nous garantira de nous fourvoyer gravement quand il s'agira de discerner une direction divine avec ce qui n'en est pas une et qui en a toutes les apparences. Et qui en a toutes les apparences. Vous savez, on pleure sur certaines situations, on pleure sur certains rétrogradages. On pleure sur certaines grossières erreurs. On pleure encore et on pleure aujourd'hui, dans certains cas, de voir avec quelle légèreté, quelle précipitation, quel, je dirais même, voire mépris de la parole de Dieu. D'années, de mois d'écoute de la parole de Dieu et ne pas en tenir compte, et d'avoir peut-être quelquefois engagé certaines choses, certaines alliances, et d'en voir les résultats aujourd'hui. C'est terrible. On se dit, mais le cœur est donc si imperméable à ce point qu'il n'a, que la parole de Dieu n'a laissé aucune influence, qu'il n'y a eu aucune pénétration, rien du tout. Alors on se dit, c'est la direction divine, c'est la volonté de Dieu. Et finalement, on voit que les faits nous prouvent que c'est tout à fait le contraire. Ça avait l'apparence. Excusez-moi, hein, mais c'est terrible. C'est terrible de se tromper soi-même et c'est terrible d'être trompé aussi par l'ennemi. Voilà, c'est la vieille histoire. Hein. Le jardin d'Éden est toujours présent, hein, faut pas... Non. Surtout quand on se précipite. Il y a un texte, je ne me souviens pas tellement, mais vous allez peut-être le restituer avec moi, qui nous dit... L'acheteur se frotte les mains, il dit « c'est une bonne affaire, une bonne affaire ». Il y a certaines choses dans la vie, on se dit « c'est une bonne affaire ». Alors des bonnes affaires pour faire des choses indifférentes de la vie, si vous l'achetez une maison, si vous l'achetez une voiture, une cravate, ou des choses comme ça, bon, allez, hein, on passe là-dessus. Hein. Mais quand il s'agit de se marier, quand il s'agit de prendre des orientations qui ont une grande incidence, non seulement pour nous, mais pour les autres, et que l'on va mêler les autres, et qu'on va tremper les autres, alors, mes frères et sœurs, alors à ce moment-là, je dis « mais... » La précipitation, l'irréflexion, le manque de considération, le manque de consultation de Dieu, même une dernière fois, il faut mieux demander encore 10 fois au Seigneur que ne pas demander du tout. Vous connaissez l'histoire des Gabaonites avec Josué ? Il s'était tellement fait, excusez-moi l'expression, hein, je parle franchement, il s'était tellement fait entortiller par des balivernes, par... les fadaises des Gabaonites, qu'il est tombé dans le piège. Et il a dû les garder jusqu'au bout. Parce que, j'affirme encore une chose, c'est quand le vin est tiré, il faut le boire. D'accord. Laissons Dieu agir souverainement et ne nous jetons jamais en rate sur quelques illuminations, sur quelques intuitions, et quelques pensées, si petites soient-elles, et nous voilà partis à mettre tout en œuvre, nous rêvons d'être et de faire avant même que le Saint-Esprit nous l'ait autorisé. Et on comprend qu'il y a des problèmes quelquefois dans la vie des chrétiens, et qu'il y a des problèmes même quelquefois au niveau des églises, avant même que le Saint-Esprit nous l'ait autorisé. Alors, au lieu d'aider Dieu, nous entravons son action. Et nous retardons ses plans. Et je dirais même que dans certains cas, les plans de Dieu seront annulés. Ce n'est pas lui qui va les annuler, c'est nous qui allons les annuler nous-mêmes. Et c'est grave. Nous mettons parfois de l'inutile en place. De l'inutile. Je ne veux pas dire que Matthias était un inutile. Hein. Je n'ai pas pensé cela. Mais quand on voit que une apparition étoile filante, il n'a pas peut-être été. Il n'est pas. Et non seulement si nous mettons de l'inutile en place, voire même nous causerons beaucoup de peine aux autres et à nous-mêmes. Et pour défaire ce qui a été mal fait, eh bien parfois c'est assez difficile, c'est assez pénible et ça peut prendre du temps. Et tout cela pour ne pas avoir su comprendre et attendre le feu vert de Dieu. La suite nous explique le principe. On raconte l'histoire de cet homme de Dieu renommé, qui en présence d'un échec retentissant dans l'une de ses missions, s'est tourné vers Dieu avec cette prière de plainte. Et il lui a dit ceci, « Pourtant, Seigneur, « je suis sûr que tu m'as appelé. » C'est ce qu'il avait le cœur de dire au Seigneur. « Je suis sûr que tu m'as appelé. » Et de s'entendre répondre par le Saint-Esprit au fond de son cœur, « Oui, en effet, je t'ai bien appelé, mais cette fois, je ne t'ai pas envoyé. » Comprenez la nuance? Voyez la subtilité? Il y a l'appel. Mais attention. Attention. Je ne t'ai pas envoyé. Dans le cas de ce qui nous occupe, c'était parce qu'il avait peut-être des choses à faire. Il y avait peut-être beaucoup de choses à faire et Dieu lui avait envoyé pour autre chose, mais ça, il n'avait pas à y mettre la main. Je ne t'ai pas envoyé. On l'a compris et on se rappelle ceci, qui revient tout à fait à notre pensée, notre première lecture. Je vous ai choisi, je vous ai appelé, mais ayons au moins l'élémentaire sagesse d'attendre qu'il nous ait établi, ce qui veut dire eh bien qu'il nous ait d'abord envoyé, qu'il nous ait assuré, qu'il nous ait équipé, qu'il nous ait autorisé au risque d'être sans fruit et nos prières inexaucées. Ça vous semble logique, mes frères et sœurs? Il me semble, quand on fait l'analyse du texte, il me semble qu'il y a quand même dans le fond de la pensée de Jésus quelque chose qui ressemble à cela. D'attendre. J'ai souvent entendu des gens me dire « Je ne peux pas attendre. » C'est vrai. Il y a quelques fois, il y a le feu. Hein. Ben oui, mais il y a des choses qui sont incontournables. Dieu nous dit « Maintenant, moi, je ne bouge pas. Tiens seulement ton âme en patience. » Ouais. Partir avec un manque d'équipement. Ce n'est pas pour rien que quand on envoie des soldats au front, on leur donne tout ce qu'il faut. Les armes défensives et les armes offensives, parce que si on les envoie comme ça, sans préparation militaire et sans équipement, sans ce qui est nécessaire, sans armement, eh ben je peux vous dire que de toute façon, ils ne reviendront jamais. Hein. Vous croyez que si les hommes ont pensé ça avec une certaine sagesse, vous croyez que Dieu n'y a pas pensé? Bien sûr. Moralité. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et si vous permettez, hein, si vous me permettez cette digression, il est bon d'attendre en silence, et bien que Dieu me donne son assentiment. Et tant que je ne l'ai pas, et bien je reste là. Je n'ai pas le feu vert, parce que je veux faire ta volonté, Seigneur. C'est pas de faire, c'est de réussir et de le glorifier en faisant ce qu'il nous demande et non pas ce que je veux, ce que j'entends vouloir faire. Attendre sinon rien faire, attendre sinon rien entreprendre, sans Dieu. On va voir ça, on va vérifier ça. Dans le livre des Actes des Apôtres, C'est un livre formidable. Hein. Au chapitre 13, voilà. On va lire ce petit texte. Simplement, je ne veux pas faire un grand commentaire parce que il parle de lui-même, mais il est quand même assez intéressant. Chapitre 13, verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes. Alors un prophète, ça prophétise. Et des docteurs. Un docteur, ça enseigne. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Ménarem, qui avait été levé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir prié, jeûné et prié, ils imposèrent les mains, ils n'ont pas tiré au sort là, et ils les laissèrent partir, après avoir, naturellement, et après avoir prié, et après ceci et cela. Là, on voit quelque chose de concret et quelque chose de significatif, parce que Dieu a donné le feu vert. Il a parlé. Mais quand Dieu ne parle pas, qu'est-ce qu'on fait ? Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi vite. Je ne tiens plus. Tu sais qu'il y a une mission extraordinaire. Il y a des âmes à sauver. Il y a tout ceci, cela, etc., etc. Ben, ces mêmes apôtres-là, ils vont se retrouver avec d'autres compagnons, certainement, où le Seigneur va leur dire « Non, vous ne rentrerez pas en Bithynie. Non, vous ne rentrerez pas dans telle province. Et vous allez maintenant regarder, faire un petit tour jusqu'à Troas, vous allez regarder la mer. » C'est quand on est devant l'océan, il n'y a plus rien. Hein. Vous savez comment ça se passe à Saint-Nazaire, on ne peut pas aller plus loin. Hein. Il a attendu, là. Mais bon, le Seigneur est bon, parce qu'il lui a envoyé un Macédonien qui lui disait « Mais on a besoin de toi maintenant. » Alors, Dieu a parlé. Mais quand Dieu ne parle pas, quand Dieu nous dit « Attends », parce qu'il y a trois possibilités avec le Seigneur. Hein. Soit il dit non, bah c'est non. Soit il dit oui, bah c'est oui. Mais quand il dit rien, ça veut dire ni oui, ni non. Donc, si vous attendez une réponse affirmative, alors à ce moment-là, si vous attendez une réponse concrète, je veux dire, alors à ce moment-là, bah, faut attendre. Parce que quand Dieu ne parle pas, ça ne veut pas dire que c'est non, et ça ne veut pas dire non plus que c'est oui. Ça veut dire « Attends ». Le Seigneur veut par pour tous ceux qu'il désire voir à son service, qu'il soit, et je précise, qu'il lui soit soumis et totalement dépendant de son esprit. Et voici le test décisif de l'obéissance déterminée par l'amour. Un dernier texte. Jean, chapitre 21, versets 15 à 19, on va le lire. Je dis bien le test de l'obéissance déterminée par l'amour. À comprendre et à retenir. Après qu'ils eurent mangé, vous connaissez la situation, vous savez un peu le contexte, Jésus dit à Simon-Pierre, encore, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » J'y mets les intonations, hein, vous avez remarqué. Hein ? Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Joseph, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Ah, c'est un petit peu plus difficile à répondre. Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé. Tiens, ça changeait. De ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Mais Seigneur, tu sais toutes choses. » Alors là, il ne répond pas. « Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras ta main et un autre se ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » C'est pas « Suis-moi avant », c'est « Suis-moi après tout ça. » C'est « Suis-moi » après tout cela. Ici, Jésus exprime à Pierre trois vérités. Il est nécessaire qu'il entende. La première vérité, c'est l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu qui grandit. C'est pourquoi il y a les trois « M'aimes-tu ? » Et on voit les réponses, on voit la question et on voit les trois réponses. Et l'attitude de Pierre, à ce moment-là, il y a une graduation. Au point de tout abandonner de soi, de nos présomptions et de nos forces propres. La deuxième vérité qui vient ensuite, c'est l'annonce de la probabilité du martyre. en écho à une promesse aussi téméraire qu'est réfléchie que Pierre avait donnée avant, quand il avait dit « Je te suivrai et je donnerai ma vie pour toi ». C'est le moment là. Hein. C'est le moment ou jamais. Hein. Ça, c'est la deuxième vérité. Et puis, troisième vérité, c'est cet appel grandiose, magnifique, qui retentit à nouveau aux oreilles de Pierre. Il en avait entendu des appels. Vous savez, la barque, pêche miraculeuse. Viens, tu seras pêcheur d'hommes, et puis souvent. Donc, il retentit à nouveau aux oreilles de Pierre quand il lui dit « Suis-moi ». Ce qui est assez étonnant, et j'ouvre une parenthèse, c'est que on a souvent vu que quand l'homme veut servir Dieu, Dieu lui dit « Bah, attendons ». Et puis au moment où Dieu dit « Maintenant, tu me suis », l'homme dit « Bah, tu en choisis un autre ». Ça vous rappelle quelques souvenirs de Moïse, naturellement. Donc, « Suis-moi ». Ce que l'on peut traduire ainsi, Pierre, et c'est, on peut le traduire de cette manière, Pierre, je t'ai choisi par amour et pour aimer mes brebis, si je reprends les choses. Je t'ai appelé, Pierre, à un destin dont le service pour moi peut finir par le martyre. On est d'accord ? Et je t'ai établi pour me suivre. Je t'ai établi pour me suivre en faisant que ma volonté. En faisant que ma volonté. Le problème de Pierre est clairement diagnostiqué à travers ce petit épisode, ce chapitre que nous avons lu dans Jean, chapitre 21. Impatience, précipitation, manque de réflexion, besoin de gouverner la vie des autres. Mes frères et mes sœurs, nous avons besoin d'apprendre une leçon, nous n'avons pas à nous occuper de la vie des autres et de les diriger, ils sont assez grands. Et s'ils ont Seigneur dans leur cœur, vous n'avez pas besoin et on n'a pas besoin de se substituer à ce que Dieu est capable de leur dire. Et les histoires dans les églises, ça vient parce qu'on se mêle de la vie des autres. Ne vous mêlez pas des affaires des autres, nous dit Paul dans... Ça doit être dans la Bible, hein, me semble-t-il. Besoin de gouverner la vie des autres parce qu'on sait mieux que ce qu'il faut faire. Surtout quand ils ne demandent rien. Moi, quand quelqu'un vient me demander quelque chose, eh bien, je lui réponds. Mais s'il ne demande rien, moi, écoutez, hein, gouverner, ça c'est le problème de Pierre. Il a cette tendance à se positionner en chef, doublé de cette racine de satisfaction à commander. Il y a des gens qui ont la nature de commandeurs, et Dieu va s'en servir. Mais il faut d'abord qu'ils meurent à eux-mêmes. Parce que s'ils ne sont pas morts à eux-mêmes, je peux vous dire qu'ils vont faire de la casse. Parce que la chair et le sang, le charnel, ça ne s'accorde pas dans le royaume de Dieu. Racine ténue. Tapis au fond du cœur, qui n'ont pas encore été livrés au feu de la purification de la croix. Voilà le Pierre qui se mêle d'affaires qui ne le regardent pas quand il prend l'initiative de mettre Matthias en position d'apôtre. Et pour mémoire, n'est-il pas écrit expressément et qui se rapporte à la nomination de serviteur de Dieu, d'anciens ou être autre ministère exerçant une autorité spirituelle. Alors allons faire un petit tour du côté de Timothée. On va voir ce qu'il nous est dit. Et dans 1 Timothée, chapitre 5, au verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Premier point. Verset 19, ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Deuxième point, verset 20, où il est dit ceci à un moment donné, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres en éprouvent de la crainte. Troisième point, verset 22, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, etc. Il ne s'agit pas de l'imposition des mains pour les malades. Il s'agit d'une autre affaire. Celle qui nous intéresse et celle que nous méditons. C'est facile d'imposer les mains à quelqu'un et de dire, bien maintenant, voilà, je te nomme. Imaginez-vous. D'abord, il faut qu'il y ait une reconnaissance de l'Église, qu'il y ait un bon témoignage, et ceci, et cela, etc. Vous relirez ça dans les pastorales. Et c'est l'Église qui doit aussi apporter son appréciation, hein, vous comprenez ? Ça, c'est important. Il ne s'agit pas de l'imposition des mains aux malades, là. Il s'agit d'imposer les mains pour mettre quelqu'un en place. Ce qui signifie, sans l'ombre d'un doute, que c'est Dieu Et seulement Dieu, seulement lui qui a autorité sur et dans son Église pour choisir, pour appeler et d'établir qui il veut, quand il veut et où il veut. On est d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Si, si, bon. Alors, je finis. En fait, l'histoire évangélique nous donne la preuve de l'évidence qui est reconnue et attestée par tous, quelque temps après cette histoire. On passe quelque temps après. Ce n'est pas Matthias qui a réellement remplacé Judas, mais un autre. Un autre qui est un géant de la foi, qui n'est autre qu'à ce moment où nous parlons, un jeune fanatique pharisien, et dont l'épopée remplira et marquera profondément l'histoire du christianisme. Ah, vous avez peut-être deviné maintenant, hein ? Vous avez peut-être deviné. Du nom de Saul de Tarse, Dixit, Paul, le grand apôtre Paul, qui sera à la fois prophète, pasteur, missionnaire et évangéliste émérite et docteur de l'Église. Merci Seigneur de nous avoir donné un Paul. Merci Seigneur de l'avoir inspiré. Merci d'en avoir fait, comme tu le dis, un instrument pour ton royaume, pour le salut des âmes, pour l'instruction de l'Église, visionnaire. Voilà le douzième qui manquait, et nous rappelant l'erreur de Pierre avec Matthias, en aucun cas c'est l'homme qui nomme un titre, un poste ou encore une fonction, quelle qu'elle soit, mais c'est Dieu qui souverainement, je le répète une dernière fois avant de prier, qui choisit, qui appelle et qui établit. Alors, si nous suivons cette voie, si nous continuons à marcher dans cette voie de l'Esprit, l'Église de Christ peut s'attendre à voir du fruit qui demeure et que ses prières soient exaucées. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que si nous cherchons des secrets, ils ne sont pas si loin de ça, ils ne sont pas si loin de nous que cela. Ce que tu nous demandes, Seigneur, tout en nous référant à ta parole, tout en serrant ta parole sur notre cœur, c'est que nous attendions que tu nous montres ce qu'il faut faire. Oui, merci Seigneur. Comme les mains du serviteur et les mains de la servante, comme les yeux du serviteur et les yeux de la servante sont fixés sur la main du maître, eh bien Seigneur, donne-nous ce que nous avons, dis-nous ce que nous avons à faire. Mais nous le ferons qu'au moment où tu seras, eh bien là, Père éternel, eh bien, en effet prêt, parce que tu jugeras que nous serons prêts. Tu jugeras, Seigneur, qu'il faut le faire à ce moment-là. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. Bénis ton peuple, bénis ton Église, bénis-nous, donne-nous du discernement, donne-nous de l'acuité spirituelle, donne-nous de la perception des choses de ton esprit. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Et envoie des Paul. Envoie des hommes, Seigneur, non pas choisis par les hommes, mais des hommes choisis par toi. Louange et gloire à toi. Nous te bénissons et nous te rendons grâce de tout notre cœur. Merci, notre merveilleux Sauveur. Amen, Amen, Seigneur Jésus.